Amen pour ces beaux témoignages. Donc, pour d'autres personnes qui veulent encore témoigner, il y aura l'occasion aussi de l'année prochaine, n'est pas terminée, hein, mais on va aussi après pouvoir fêter. Il y a plusieurs anniversaires encore dans cette fin d'année. On veut qu'on les célèbre, on veut se réjouir dans le nom du Seigneur. On veut juste simplement terminer par un petit bilan de ce thème que nous avons, donc restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres. Donc, dans cette semaine que nous avons, dans cette année plutôt que nous avons vue, nous avons eu la possibilité de regarder Ésaïe 58 et de voir comment que ces versets pouvaient nous encourager dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Il reste deux versets à regarder, les versets, je crois que c'est 13 et 14, qui sont très importants, qu'on va étudier l'année prochaine parce qu'ils parlent du sabbat. L'importance du sabbat. On va voir comment que même nous aujourd'hui, même si nous sommes plus sous l'alliance, l'ancienne alliance d'Israël, le sabbat, comment que le sabbat est important. Nous allons voir un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire le sabbat pour nous aujourd'hui. On a vu aussi durant cet été le livre de Néhémie, où on a pu voir comment que il a reçu cette mission d'aller restaurer, justement, de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et on a pu terminer un peu dans le chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, verset 18, où lorsque Néhémie a commencé à parler puis dire, ben voici le plan que Dieu m'a donné, voici les réalisations que Dieu a faites, les grâces que Dieu nous a données, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, les gens ont dit dans le verset 18, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne révolution. Donc oui, nous allons continuer de nous lever, de rebâtir l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de nous fortifier dans cette bonne révolution, dans cette nouvelle année 2026 aussi. Prochain dia, donc l'année 2025, c'est vrai que ça n'a pas été une année facile, comme vous l'avez entendu. J'aimerais vous partager un peu mon témoignage. Bon, Nicole vous a déjà dit un peu quelques points, donc je vais aller plus vite aussi. On a eu la grâce de fêter. Herman, c'est 10 ans, mais nous, c'est 30 ans, mais tu peux continuer, il faut avancer aussi, le Seigneur, bientôt, on va pouvoir fêter tes 30 ans aussi. Donc, continuons, donc, on a vu comment que Dieu a été fidèle dès les 30 dernières années. On a aussi fêté 30 ans de présence dans le ministère au Québec. Durant de nombreuses années, ça a été des temps difficiles, mais on a vu comment que Dieu a été là. Donc, du côté de l'appartement, Nicole vous a un peu partagé tout ce que nous avons vécu. Et comment que Dieu a permis qu'après 3 ans de lutte, d'incompréhension, de recherche, d'écoute de Dieu, Dieu nous a montré vraiment aussi un cadeau merveilleux. Vous avez entendu que Nicole a perdu sous son travail et qu'elle n'a pas pu trouver un travail stable pendant longtemps. Donc, ça nous a mis dans une certaine pression financière qui a fait que moi, j'ai dû travailler un petit peu plus à l'extérieur, donc dans la rénovation. Dieu a permis que j'aie plus de contrats, tellement que j'en ai par-dessus la tête aussi. Mais tout ce temps que j'ai mis dans la rénovation, c'est vrai que ça a affecté le travail pastoral ou dans le ministère. Comme vous le savez, on a eu notre temps sabbatique à l'automne 2024 et on a repris officiellement en 2025. Et dans les premiers temps, je voyais comment que le comité officiel avait vraiment repris, vraiment à cœur le travail de l'Église avec le pasteur Herman, tous les membres, et comment qu'ils ont supporté, aidé à permettre que l'Église puisse avancer. J'étais vraiment réjoui de voir l'enthousiasme et le travail qu'ils avaient fait. Et je pensais continuer dans cette même lancée. Mais comme peut-être vous l'avez entendu, on a eu différentes choses. Moi-même aussi, on a eu différentes situations. Et on n'a pas réussi, entre guillemets, à rebâtir ou à relever ou à restaurer peut-être les murailles de l'Église. Des brèches sont apparues, un certain découragement est apparu au sein des membres et on arrive à la fin de l'année 2025 avec un certain peut-être ressentiment de ne pas avoir réussi le travail de restaurer ou de rebâtir. C'est vrai que le comité officiel a regardé, essayé d'analyser le pourquoi, comment y remédier, quoi faire pour justement essayer de mieux être une église en santé, comment pouvoir partager l'évangile autour de nous et tout ça. On a vu que certains points ont besoin d'être améliorés, d'être changés ou mis en avant. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite du livre de Néhémie. Jusqu'à maintenant, nous sommes arrêtés au chapitre 2. Nous avons vu qu'il fallait se lever et bâtir, mais on sentait qu'on ne veut pas pour aller pour le moment plus loin. Mais l'année prochaine, on va continuer de voir comment que Néhémie a fait pour rebâtir la muraille. Donc, c'est vrai que tout ce que nous avons vécu, ce que j'ai vécu personnellement dans ces années 2025, m'a un peu bouleversé, m'a mis un peu dans une situation un peu plus aussi difficile. Et du côté aussi, du côté de mon travail pastoral, ça a aussi affecté. Et c'est vrai que je reconnais que je suis des fois un peu déçu peut-être de la situation qui se passe actuellement du côté de l'Église, mais aussi du côté des finances. On en parlait tout à l'heure avec Ghislain. Mais je ne suis pas découragé. Je ne suis pas découragé. Je suis comme les membres, les dirigeants de Jérusalem qui ont dit « Levons-nous et bâtissons ». Vous savez, pour bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas une ligne linéaire, dans le sens que tout va bien, puis on progresse, puis on va de l'avant. Oui, c'est vrai qu'on aimerait que notre vie avance, progresse. Mais chacun de vous, vous avez vu comment que des fois, on vit des belles choses avec le Seigneur, des choses plus difficiles, mais même dans les temps plus difficiles, le Seigneur est là. Et dans cette année, j'ai pu voir comment que même si on a vécu des choses plus difficiles, le Seigneur était là. Nous a donné la patience, nous a donné surtout la persévérance d'avancer, d'aller de l'avant. Et justement, on avait vu dans le verset d'Ésaïe 58, verset 12, les quatre R qu'on a mis, hein, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Voilà, donc on a vu les quatre R. Il y a le mot rebâtir au début du verset, qui veut dire de bâtir de nouveau, ou comme dans cette phrase, de rebâtir sur les ruines d'autrefois. Donc, Ésaïe fait allusion justement à la reconstruction des murailles quelques années plus tard par Néhémie. Et on a besoin aussi, nous, de rebâtir des choses dans notre Église. Il y a le mot relever, c'est-à-dire de lever de nouveau ce qui a été fondé dans le passé. On a à voir l'importance de reprendre ce qui a été fondé dans le passé, de le relever, de dépoussiérer si nécessaire, afin que ce fondement soit solide et juste, pour être le cas pour nous aussi en tant qu'Église. Ensuite, dans la suite du verset, on voit qu'on est réparateur des brèches. Il y a le mot réparer. Avec le temps et les années, c'est possible qu'il y ait des fissures, des trous qui sont apparus de la construction de l'Église. Et on a aussi le mot restaurer qu'on a vu tout au long de l'année, celui qui restaure les demeures en ruine. Restaurer veut dire de remettre en bon état, de remettre en vigueur, de redonner des forces. Alors oui, on a besoin des fois de redonner vigueur à notre foi, de redonner des forces pour être un véritable témoin de Jésus-Christ. On a vu que dans cette année, il y a certaines lacunes que nous avons faites en tant qu'Église et qu'on a besoin de restaurer si nous voulons aller de l'avant. Donc ces mots rebâtir, relever, réparer, restaurer vont continuer de nous accompagner dans ces années 2026 parce que nous croyons que nous sommes dans ce temps où il faut mettre ces choses aussi en action. Un des aspects que Némi a compris et que nous avons essayé de mettre en avant, c'est la prière. De rechercher la présence de Dieu, la face de Dieu, pour justement aller chercher la direction de Dieu, sa force pour persévérer malgré les difficultés. Et un des points où on a besoin de rebâtir ou de restaurer, c'est la prière collective en Église. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, on a commencé de prendre un temps de prière avant le culte. Pourquoi? Parce qu'on voulait prendre un temps vraiment spécial, où on pouvait être vraiment dans la présence de Dieu pour intercéder, pour écouter. Oui, la célébration est importante, qu'on a fait ce matin, de louer le nom du Seigneur, de partager. On a besoin aussi de prendre des temps de prière. Et on a vu que peut-être qu'en dehors du dimanche, c'était difficile d'avoir l'Église, d'avoir cette prière collective. Voilà pourquoi qu'on veut continuer dans cette phase d'avoir cette prière le dimanche matin. C'est vrai que ça demande un effort de plus parce qu'il faut comme venir une demi-heure avant. Mais on croit que c'est important de continuer de persévérer dans ce côté-là. Regardons justement dans Néhémie. On va juste regarder Néhémie vers chapitre 4, voir comment que lorsque Néhémie a commencé à bâtir, les gens étaient vraiment encouragés, fortifiés. Ils ont commencé à bâtir, à rebâtir la muraille. Mais on a vu comment que les ennemis étaient là. Et comment que lorsque le travail de réparation a commencé à avoir des résultats, là, ils ont commencé à se manifester de différentes manières. Ils ont eu plusieurs stratégies pour essayer d'arrêter la construction. Lisons, ouvrons notre Bible dans Néhémie chapitre 4, versets 8 et 9. Il est dit, donc ce sont les ennemis, ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem, ils semaient le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. Dans ce verset, on voit deux choses. La première, il dit, nous avons prié notre Dieu. Il ne fait pas simplement une simple prière, mais ils sont mis ensemble en tant que peuple pour intercéder, pour prier ensemble pour que Dieu intervienne. La prière avant le culte, justement, a un de ses buts. C'est justement de prier ensemble en tant qu'Église, afin que le Seigneur vienne à notre secours et nous délivre. C'est important, ensemble, qu'on soit devant notre Dieu, de comprendre ce que nous devons faire, comment nous battre contre l'ennemi. Oui, nous pouvons avoir nos idées à nous. Oui, nous pouvons entendre peut-être d'autres églises qui ont aussi leur lutte. Mais on a besoin de comprendre, de saisir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pour nous, pour notre église, pour notre vie aussi. Comment est-ce que nous devons arrêter ces traits enflammés de l'ennemi afin qu'il veut nous distraire, nous faire arrêter le travail de Dieu. Voilà pourquoi qu'on veut s'encourager à continuer ce temps de prière. Et moi, je vous encourage vraiment dans cette nouvelle année à venir à 9h30 pour prier, chercher la face de Dieu. Ça, je peux vous le dire, j'ai déjà vu dans l'église, j'ai reçu des témoignages. Lorsque l'église se met à prier ensemble, lorsque l'église cherche la face de Dieu d'une façon nouvelle, dynamique, dans l'écoute, dans l'humilité, dans la compréhension de ce que Dieu veut faire pour eux, alors des choses changent. Et on peut le voir dans 2 Chroniques 7, 14. Rappelez-vous, c'est Salomon a construit le temple où la présence de Dieu devait être là. Et il a dédicacé, et on a pu voir la gloire de Dieu se manifester. Et la nuit, Dieu s'est révélé à Salomon. Et voici un des versets qu'on connaît bien, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc ce verset rappelle qu'il est parlé du peuple. Donc des personnes ensemble qui vont s'humilier, qui vont prier ensemble, qui vont rechercher la face de Dieu, qui vont revenir de leur mauvaise voie. Nous voyons que ces conditions doivent être remplies afin que la suite du verset se réalise. Parce que dans la suite du verset, il dit, Dieu dit, moi, je l'écouterai, moi, je lui pardonnerai, moi, je guérirai. C'est vrai que ce n'est pas simplement le temps de dimanche avant le culte de la prière qui va faire changer quelque chose. Mais on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble pour s'humilier, pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour écouter le Seigneur. Alors nous allons voir des fruits. Mais j'ai réalisé quelque chose quand j'ai relu ce texte. C'est dans le verset 15. Regardez dans le verset 15, tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Désormais, c'est Dieu qui dit à Salomon, désormais, mes yeux seront ouverts. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. C'est vrai que ce récit de deux chroniques fait suite à la dédicace du temple. Et Dieu va dire, ben, toutes les prières qui vont être faites dans le temple, s'ils sont faites dans l'humilité, s'ils sont faites dans le besoin de rechercher la face de Dieu, s'ils sont faites que les gens se détournent de leur mauvaise voie, alors oui, je vais les écouter. Je vais être attentif à leurs prières. Mais le principe de s'humilier, le principe de prier, de rechercher la face de Dieu, de se détourner des mauvaises voies, est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes le peuple racheté par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi que je crois que la suite dans le verset 15 nous est aussi donnée. Que les yeux de notre Seigneur seront ouverts devant nos défis, devant nos situations difficiles. Et on a pu entendre ce matin comment que même dans nos temps difficiles, le Seigneur est là. Le Seigneur continue de nous entourer, de continuer de nous aider à avancer, à persévérer. Dieu va voir ce que nous vivons et va un jour nous en délivrer. Et on a pu l'expérimenter même nous-mêmes aussi avec nos situations qu'on a vécues avec l'appartement. Le Seigneur va ouvrir ses oreilles pour entendre nos prières qui vont monter vers lui, principalement celles qui se font dans sa maison, dans son église, par le peuple de Dieu. Voilà pourquoi qu'il dit toujours, si mon peuple, si mon peuple. Mes amis, c'est vrai qu'il y a des stratégies pour faire accomplir la mission de Dieu. Oui, il y a des choses à changer ou à améliorer dans notre Église, afin que l'Église progresse et se développe. Mais la première stratégie, comme Némi avait compris, il fallait que le peuple prie et intercède pour se protéger de ses ennemis et réussir à accomplir la mission de rebâtir la muraille. Prochain diapositive, on voit la deuxième chose. Donc, on voit qu'il a prié notre Dieu. Et deuxième point, il a posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour se défendre contre eux. Comment est-ce que nous pouvons articuler cela pour nous aujourd'hui? C'est vrai que nous ne sommes pas en guerre, que nous devons de nous défendre contre un envahisseur. Mais du côté spirituel, nous comprenons que c'est se défendre contre notre ennemi. Et pour cela, nous devons prendre les armes que le Seigneur nous donne afin de nous défendre. Oui, c'est vrai que la prière est importante et cruciale pour gagner des combats. Mais ensuite, il y a un travail à faire. C'est de se mettre à se défendre, à rentrer dans ce combat spirituel. Et je pense que c'est un aspect peut-être que dans cette année 2025, on a manqué. Personnellement, peut-être aussi, puis aussi en tant qu'Église. Plusieurs personnes, on l'a vu encore ce matin, ont vécu des temps difficiles, vivent encore des temps difficiles. Il nous a peut-être manqué en tant qu'Église de prier pour ces personnes, de pouvoir les entourer dans ces moments qu'ils vivent, afin de se défendre contre ces attaques. Éphésiens, vous connaissez très bien Éphésiens 6, verset 11, où il est parlé justement, où Paul parle à l'Église d'Éphèse des armes que Dieu nous donne. Il est dit dans le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il est parlé de toutes les armes. Pas juste quelques-unes, pas juste simplement ceux qu'on a peut-être envie de prendre ou qu'on n'est plus à l'aise, mais toutes, afin que nous puissions tenir ferme contre le diable. Et on voit dans les versets suivants, dans le verset 14, comment que ces armes que Paul va énumérer. On va pouvoir, l'année prochaine, de regarder justement chacune de ces armes pour comprendre comment il faut rentrer dans ce combat contre notre ennemi. Il est parlé de la ceinture de la vérité, que la vérité de Dieu soit notre ceinture, nous tienne. Entre guillemets, on met une ceinture pour tenir notre pantalon. Et on a besoin d'avoir cette ceinture qui nous tienne ensemble dans la vérité. Il est parlé de la cuirasse de la justice. Comment qu'on a besoin de défendre cette justice que Dieu nous donne. Il est parlé des chaussures pour la disponibilité à servir la bonne nouvelle, d'avoir les chaussures qui nous permettent de marcher, d'avancer, d'apporter cette bonne nouvelle autour de nous. Il est parlé de le bouclier de la foi. Comment qu'avec le bouclier, nous pouvons nous défendre contre les traits de l'ennemi. Il est parlé du casque du salut, que justement la tête doit rester, je veux dire, protégée pour que le salut que nous avons en Seigneur, dans le Seigneur, reste. Il est parlé aussi de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée qui nous permet, à travers la parole, de pouvoir défendre, même attaquer l'ennemi. Je crois qu'on a besoin de continuer de se lever, de travailler dans l'œuvre du Seigneur avec ses armes. Et c'est vrai que le travail pour le Seigneur n'est pas facile. Comme on a dit, on peut avoir des temps, des très bons temps, on peut vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur, et il y a des temps aussi plus difficiles. Mais dans les temps plus difficiles, c'est là que le Seigneur nous montre sa fidélité. C'est là que le Seigneur nous montre comment qu'on a besoin de persévérer, de mettre notre foi en action. Et si vous regardez, prochain dia, dans le verset suivant, l'explication des armes, c'est intéressant, il parle au verset 18, il dit, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. C'est intéressant que ces deux textes que nous avons regardés nous parlent de l'importance de la prière. La prière est centrale. Et voilà pourquoi nous avons commencé la nouvelle année dans la prière et dans le jeûne. On va prendre à partir du mercredi, je crois que c'est le 4 jusqu'au 7, on va prendre des temps de prière le matin, le soir et même le samedi, on va faire quelque chose d'essayer de nouveau. Le samedi, on va se rencontrer, pas le soir, mais en fin d'après-midi pour prendre un temps de louange, de remerciement ensemble en famille pour pouvoir louer le nom du Seigneur, pour reconnaître, pour proclamer sa toute-puissance sur nos vies, sur cette année 2026, sur notre Église. Alors, on veut prendre justement ces temps de jeûne et prière pour discerner les combats, pour nous préparer. Nous voyons comment que l'ennemi s'acharne et on voit de plus en plus, nous sommes dans les temps de la fin. Il est parlé que dans les temps de la fin arriveront toutes sortes de choses. Il y en a besoin qu'en tant que chrétien, on reste fidèle. On voit malheureusement tellement de personnes qui ont commencé avec le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, mais qui à un moment donné ont quitté ou se sont refroidis, puis à un moment donné, par toutes sortes de circonstances, d'événements, ben, La relation avec Dieu reste une relation qui est très éphémère, qui est peut-être juste peut-être le dimanche ou quand on parle avec la personne. On a besoin d'avoir ce temps de prière jeûne pour intercéder afin de voir la victoire sur l'ennemi dans nos doutes, dans nos défis. Et je suis sûr que le Seigneur, dans cette année 2026, va encore, l'ennemi va encore essayer de nous déstabiliser, de nous distraire, de nous donner encore plus de combats. Continuons dans la prière et dans le jeûne afin que notre Église rayonne de la lumière et de la joie de notre Seigneur. On a besoin que notre Église rayonne de sa joie, que le monde autour de nous puisse voir cette lumière, puisse venir dans cette lumière pour dire, je sens que cette lumière me réchauffe, je sens que cette lumière du Seigneur me permet d'avancer, d'aller plus loin. C'est aussi pour demander à notre Dieu que des hommes et des femmes puissent entendre par nos bouches la bonne nouvelle de l'Évangile. On parle beaucoup de l'évangélisation, mais concrètement, on n'a pas beaucoup de résultats. Mais on a besoin de voir comment le faire. On a besoin, on a eu des formations cet automne par rapport à la prière, comment aussi partager l'Évangile. Et on veut simplement encore nous encourager, chacun de nous, et moi le premier, à être ce témoin, à partager, à inviter les gens pour pouvoir célébrer le nom du Seigneur, de pouvoir goûter à la grâce, à la paix que Dieu nous donne. Alors oui, le travail de Dieu est grand et on a besoin de nous retrousser les manches. Nous avons besoin d'un Dieu plus puissant que notre ennemi, Satan, qui va nous donner la victoire. Alors simplement, courbons notre tête et ensuite je vais inviter notre frère Ghislain à venir pour continuer. Réalisons que oui, c'était une année différente. Certains ont vécu des belles choses, d'autres des choses plus difficiles. Mais c'est vrai qu'à la fin de cette année, on peut dire, Seigneur était là. Le Seigneur nous a secourus, le Seigneur a été notre soutien, a été notre force, même dans les temps plus difficiles. Le Seigneur a permis des temps des fois plus d'épreuves, plus difficiles pour que nous puissions apprendre, que nous puissions apprendre. Un des aspects que j'ai partagé ce matin dans la prière par rapport à la situation qui se passait avec notre propriétaire, c'est d'apprendre à bénir ceux qui nous persécutent, bénir ceux qui nous font du mal. Moi, au début, j'étais à celui qui voulait contrer mon propriétaire, j'ai même crié contre lui, même au sein, j'avais déjà partagé, même au sein de l'Église, et comme ça, à un moment donné, à cause des choses qu'il avait fait à ma femme. Mais le Seigneur m'a dit, mais ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, ce n'est pas comme ça que je te montre. Je te dis de prier pour ceux qui te persécutent, d'aimer tes ennemis. C'est un beau verset, mais mets-le en pratique maintenant. Et j'ai dû apprendre. Et je remercie Dieu que dans ces temps difficiles, il m'a appris cela. Même après des années de vie chrétienne, même après des années d'avoir lu, d'avoir prié par rapport à ce texte, là, le Seigneur m'a dit, hein, tu as encore des choses à travailler, tu as encore des choses à voir. Lorsqu'on est dans un temps difficile, c'est là qu'on voit où nous sommes dans notre cheminement. Alors, il faut remercier le Seigneur de tous ces défis que nous vivons, ces temps de souffrance, d'épreuve. Parce que c'est dans ces temps-là que sa présence nous réconforte. C'est dans ces temps-là que Dieu nous montre qu'il est là. Alors, pourquoi que je suis encore encouragé, enthousiasme, même par rapport à l'Église, même si peut-être il y a des situations qui se passent qui n'est pas favorable ou qui peut nous décourager. Mais Dieu a quelque chose. Dieu, des fois, permet ces choses-là pour que nous puissions nous ressaisir, nous rebâtir, restaurer, relever. Quand tout va bien, quand on dit merci Seigneur, tout va bien, la grâce, les bénédictions de Dieu sont là, peut-être qu'on n'arrive pas à voir comment agir dans les temps les plus difficiles. Alors Seigneur, on te remercie pour cette année 2025, pour tout ce que nous avons vécu. Nous te louons, Seigneur, parce que c'est en toi que nous avons la vie. Et c'est vrai que nous avons pu l'entendre à travers les témoignages, comment que, Seigneur, tu étais là, même dans les temps les plus difficiles. Des fois, Seigneur, tu as tardé dans les réponses, mais parce que tu voulais nous faire apprendre, tu voulais nous faire grandir, progresser dans notre marche avec toi. Et Seigneur, je te remercie encore aujourd'hui pour ce qu'on a pu vivre, nous, en tant que personne, en tant que famille aussi. Même si ça n'était pas facile, mais je remercie parce que je te remercie, parce que tu m'as appris à grandir, à te faire plus confiance, à mettre ta parole en pratique, Alors, Seigneur, à la veille de cette nouvelle année, on est enthousiaste. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, on voit comment que le monde change. On voit comment que le monde est bouleversé. Mais Seigneur, on veut rentrer dans cette nouvelle année avec confiance. Comme tu as été avec nous en 2025, tu vas être là avec nous en 2026. Nous savons qu'un jour tu vas revenir. Nous savons qu'un jour tu vas venir rechercher tes enfants. Et nous voulons être prêts à te recevoir. Nous voulons être des personnes qui seront en train de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Alors merci. Merci pour le Saint-Esprit en nous. Merci Saint-Esprit parce que tu continues de nous guider, de nous façonner, de nous former pour être à l'image de notre Père céleste. Et je te prie de continuer de mettre ta main de grâce sur chacun de nous, sur ton Église, sur l'Église aussi au Québec, l'Église au Canada qui vit aussi des situations difficiles avec le gouvernement ou d'autres choses. Nous savons que l'Église, c'est toi qui es le chef. Nous sommes juste des serviteurs et nous voulons continuer de construire avec toi l'Église pour qu'elle puisse rayonner dans ce pays, dans ce monde. Alors merci, merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen. Amen.